Je vais donc vous présenter notre modératrice, Sarah Douc. Voilà.
Ça, c'est fait.
Et donc, à ma gauche, Jean-Luc Bizien. Je sais, mais...
Tiens, attends.
Jean-Luc Bizien, qui a...
Tu as des carrés de sopalin, ça rime.
Ouais. Qui a commencé dans la création de jeux, les romans de fantastique et de fantasy, les livres dont vous êtes le héros, et continuer vers le thriller, vers le polar. À ma droite, Ayordal, connu de beaucoup comme auteur de SF, qui a, au début des années 2000, commencé une nouvelle carrière d'écrivain de thriller. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous mettre à... de changer de genre?
Wow. J'attaque, hein?
Ouais,
ça te paraît bien?
Non, mais je peux le faire aussi, hein?
Non, vas-y. Mais... Ouais?
Non,
tu le sens?
C'est comme... Ouais. Moi, il y a une raison essentielle qui m'a poussé à basculer d'un domaine littéraire à un autre, c'est l'argent. On va être très clair, la science-fiction fonctionnait relativement bien encore quand je l'ai quitté, mais je l'ai vraiment quitté à temps. Aujourd'hui, tous mes amis auteurs de SF sont dans une mouise qui est désespérante, c'est-à-dire qu'ils sont au RSA, et même quand ils ont écrit un super bon bouquin, ils ne sont pas sûrs de pouvoir le publier parce que les éditeurs verrouillent un petit peu la porte. C'est de la science-fiction, on ne va pas arriver à le vendre. Alors, ce qui est très drôle, c'est que si la science-fiction s'est cassée la figure, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont décidé qu'ils ne la vendaient pas, alors qu'ils la vendaient. C'était le genre littéraire dans lequel on était... On avait un public captif garanti, simple, mais et qui est là. Enfin, à l'époque, la moyenne des ventes sur les romans se situait aux alentours de 1400 exemplaires. En science-fiction, on ne tournait jamais en dessous de 10 000. Bon, donc, c'était quand même très très bien. Quand on a augmenté les seuils de rentabilité collection par collection, puis titre par titre, quand les groupes ont augmenté, on un petit peu obligé leurs responsables littéraires, un petit peu, je suis gentil, ont donné des ordres aux responsables littéraires qui étaient, maintenant, c'est 15% qu'on veut par titre de bénéfices. La science-fiction qui faisait son 8% depuis 50 ans, elle s'est plantée. Donc, je ne sais pas, mais je l'ai un petit peu pressenti. Donc, c'est une des raisons qui m'a poussé. La deuxième, qui est un petit peu évidente, c'est on essaye de se renouveler, de se donner envie d'écrire, d'aller un petit peu plus loin, de faire autrement. Ma première motivation d'écriture, c'est de décrire le monde à mes contemporains, même par le biais de la science-fiction, de lui parler de l'humanité, des relations qu'on a entre nous, de la façon dont nous fonctionnons ensemble et où l'un contre l'autre. Et je me suis aperçu que si la science-fiction était un véhicule très intéressant pour le faire, parce qu'en projetant des choses dans un lointain futur, ou dans un lointain passé, ou dans une lointaine planète, un lointain lieu, a priori, on était plus dans le domaine de l'évasion qu'autre chose, mais on peut, enfin, je n'ai jamais fait que décrire l'humanité. Si la science-fiction permet de se projeter, par contre, ancrer une histoire dans notre contemporain, quelle que soit la façon dont on la tourne, et il y a toujours une petite dose de fantastique ou de science-fiction dans ce que je fais, ça permet d'être beaucoup plus performant. C'est-à-dire, quand au lieu de dire le groupe Bioschnouch Magnouf qui est sur la planète Bidule qui vient ensemencer la planète Schtroumpf, on dit Monsanto a fait ça à telle heure, à tel endroit, la performance est nickel.
Pas mieux. Moi, j'ai toujours écrit des histoires sans trop me poser la question du genre. Alors, j'ai démarré par le jeu de rôle, donc des histoires fantastiques. Et le jeu de rôle, ça a surtout été une école de l'efficacité, de l'exigence et de la construction de l'histoire, mais pas une école littéraire. En revanche, la critique qui revenait souvent sur mes productions, dans Casus Belli, dans les revues spécialisées, c'est Parce que Fébizien, c'est pas mal, mais c'est quand même trop littéraire. Donc j'ai fini par l'entendre. Je me suis dit que j'allais passer au livre. J'ai commencé par la jeunesse parce que c'est un métier un peu étrange où il faut des rencontres. Et en démarrant par la jeunesse, un jour j'ai croisé Serge Brussolo, qui était à l'époque directeur chez Présence du Futur, auteur, et qui m'a donné la chance de publier. L'histoire est ainsi faite que, à peine avais-je fini mon livre et signé le contrat. D'ailleurs, la couve était magnifique, c'est une couve de Florence Magnin.
Oui, je la vois. Oui.
Et le bouquin n'est jamais sorti, tu sais. C'est ça qui est énorme. C'est-à-dire que j'ai signé mon livre, j'ai touché mon chèque. Ils ont commandé la couverture. Brussolo a donné sa démission. Gilles Dumay est arrivé. J'ai eu un coup de fil d'un mec que je ne connaissais pas, donc le Gilles, qui m'a dit, voilà, je déteste ce que fait Brussolo, donc ton livre ne va pas sortir.
Ils sont devenus très copains.
On est toujours super copains. Et je lui ai demandé si c'était grave. Voilà. Et avec les sous que j'avais touchés du livre qui n'est pas sorti, j'ai acheté la couverture. Qui depuis, donc on était en 98, vous voyez, il y a prescription, qui depuis est suspendu au-dessus de mon bureau, quelle que soit mon adresse, pour me rappeler qu'un livre n'existe que lorsqu'il est en librairie ou en bibliothèque, ou voilà, qu'il est fabriqué. Et qu'avant, c'est du projet. J'ai un magnifique original de Florence Magnin au-dessus de mon bureau. Et comme Serge est à peu près aussi têtu et muet que moi quand il s'y met, ensuite il est passé au Masque, aux éditions du Masque, et là il m'a dit, écoute, c'est quand même ballot de s'arrêter là, donc si tu veux, là, tu vas pouvoir publier des bouquins. Et c'était pas tant le genre qui m'intéressait qu'une envie de raconter des histoires. En fait, je me suis aperçu, après avoir touché un petit peu de la jeunesse et tas de choses, que c'était le thriller qui me permettait, moi, finalement, de traiter au plus près de ma sensibilité et de mon envie de raconter des histoires, des sujets qui me passionnaient. Et là, je rejoins complètement à 2000% Yal. On s'en fout d'inventer des dragons ou des monstres ou des trucs, alors que si on veut parler du mal, si on veut parler de l'humain, si on veut parler de la confrontation entre l'humain et ce mal, ou l'humain et des monstres, il n'y a pas besoin de lui mettre une peau de bique autour des reins et une hache pour aller taper du dragon. Il suffit de raconter des histoires aujourd'hui. Moi, je me suis rendu compte, je vais bientôt fêter mes 50 balais, que les pires monstres que j'ai croisés dans la vie sont en costume cravate et officiellement tout à fait fréquentables. Donc on s'amuse, voilà, on s'amuse avec des codes. Et en revanche, le bémol par rapport à Yal, c'est que moi, venant de la jeunesse, ça fait 12 ans que les éditions Grune avec les livres-jeux me nourrissent, et puis vous avez eu plutôt pas mal, parce que j'ai des chiffres de vente, c'est des cartons phénoménaux, et que ça paraît dérisoire depuis que je fais du thriller, il n'empêche que c'est vers ça que j'ai envie d'aller, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'écrire, et que je me réalise vraiment là-dedans. La vie est parfois injuste. Je peux faire un livre jeunesse en 3 semaines et en vendre 200 000 exemplaires, et je peux travailler pendant 2 ans sur un roman. Il n'empêche que je n'ai envie de renier aucun de ces bouquins là. Voilà, je suis content de faire ça, je suis vraiment content de travailler. J'ai bossé pendant 2 ans pour faire un livre sur la Corée, parce qu'un copain m'avait dit, personne n'a jamais fait de livre sur la Corée, est-ce que c'était une bonne raison? Je ne sais pas. N'empêche que quand j'ai mis le nez dans la Corée du Nord et que j'ai découvert la réalité, je me suis dit que oui, c'était juste tellement kafkaïen qu'il fallait trouver le truc. Le challenge, c'était d'arriver à faire un thriller, donc un roman de type policier, dans le pays plus fliqué du monde. Vous voyez, c'est un peu particulier. On y arrive.
Un pays dont, en plus, tu as forcément des informations immédiates, vérifiables.
Alors, et 2 ans sur Internet pour récupérer 25 heures seulement, par petits bouts. Dont 23 en anglais, hein, tu sais, non sous-titré, mais c'est top. Hein. Et c'est un truc extraordinaire. Il faut imaginer que les pseudo-traducteurs qu'on vous donne en Corée du Nord... Alors, pour entrer en Corée du Nord, pouf, soit vous êtes affilié officiellement à un parti communiste, quel qu'il soit, vous avez une petite chance. Soit vous êtes membre d'une ONG, vous avez une moyenne chance, puisque là, vous apportez du pognon et un savoir-faire. Nous sommes d'accord. À la seconde où vous passez la frontière... Donc le no man's land entre Corée du Sud et Corée du Nord avec le double dose de barbelés, on vous présente votre traducteur, qui est en fait un flic du gouvernement qui va tout vérifier, tout noter. Monsieur Yal Ayerdal a fait pipi à telle heure, à tel endroit, il a repris 2 fois des nouilles, enfin tout.
Mais par contre, ça fait des belles pancartes. Au lieu de ici a vécu, ici a fait pipi.
Voilà, et passer partout. Alors, si tu... Mais par contre, ça fait des millions de pancartes, tu vois, partout. Et Et voilà, et on vous fait comprendre, le traducteur vous glisse dans une conversation que on n'est pas certain que votre passage de la frontière ait bien été noté. Ce qui veut dire que si vous disparaissez par accident parce que vous n'êtes pas allé faire pipi là quand on vous a dit, ni où on vous a dit, ça va être très compliqué pour votre gouvernement de prouver que vous êtes passé, puisqu'on n'est pas sûr d'avoir la trace. Et donc, moi, je pense qu'un jour, il faudra songer dans nos démocraties à élever des statuts aux quelques journalistes qui ont eu le courage de passer la frontière avec des caméras cachées et de ramener les images. Parce que là, c'est... Ouais. Pour moi, les héros modernes, c'est les gens qui vont dans des trucs comme ça et qui essaient juste de témoigner et de... Et hélas, on le voit pas assez à la télé, il faut aller le chercher sur Internet, dans quelques sites de gars qui continuent à communiquer et tout ça. Alors après, c'est... Qu'est-ce que je suis bavard ce matin ? Ça t'arrange un peu ?
Ah non, 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 moi je suis admiratif.
Il est gentil, j'aime beaucoup ce garçon. Pardon, je m'en veux pas. J'ai une conception de ce métier un peu particulière. Je trouve qu'on est tous plus ou moins schizophrènes. Parce qu'il faut à la fois un ego surdimensionné pour pondre une histoire en ayant la prétention que ça va intéresser les gens. Et en même temps, si on n'a pas, comme disait Philippe Djian, l'impression qu'on va faire le meilleur bouquin de l'année au moins, on ne s'enferme pas tout seul face à un ordinateur pendant 6 mois de sa vie. Ou alors, il faut consulter, on est gravement malade. Il y a ces deux trucs-là. Il n'empêche que la petite prétention, ou en tout cas l'envie que j'ai profondément au fond de moi quand je fais un thriller, c'est d'abord de raconter une bonne histoire et de faire passer un bon moment. Thriller, contrairement à un roman noir, où c'est, je crois que le truc qui vient en avant, c'est la lecture plaisir. Maintenant, se retrancher derrière le thriller pour dire juste « Non, mais moi je fais du récréatif », ça n'a, à mon avis, aucun intérêt. La cerise sur le gâteau, c'est si on a permis au lecteur ou à la lectrice de passer quelques heures de plaisir et d'oublier complètement sa vie, mais qu'à la fin, comme ça, en petite touche, on l'a amené à réfléchir à ce que nous, on avait au fond du crâne ou au creux des tripes, là, on a réussi le job.
Exactement. C'est ça l'idée ? C'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est la définition... Tu viens de donner la définition de ce que doit être un auteur, au sens sartrien du terme. J'en profite, j'adore la sortir tous les jours, cette phrase. La fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent.
Et il y a... Ah oui, vous pouvez, moi je trouve ça...
Ah non, mais il est mort, ça. Enfin, non, attends, je touche rien sur ce qu'il a écrit. Par contre, ouais. Il y a un Roland C. Wagner qui rajoute un détail... T'es pas obligé d'emmerder le lecteur avec une histoire chiante.
Ouais. Et voilà.
Si tu peux le faire rêver, le faire voyager, lui faire vivre des émotions qui sont celles, non pas auxquelles il aspire, mais auxquelles on peut le dire, hein. Oui, on a le droit, merci. Et qui sont, ben, voilà, ça va le sortir un petit peu de sa vie de tous les jours, etc. Bon. Tu le nourris de deux choses extrêmement importantes. La détente. C'est un truc qu'on retrouve assez facilement quand on regarde un aquarium, une télévision. Surtout si elle est éteinte. Là, il y a la détente est totale. Dès qu'elle est allumée, parfois, il se passe des choses bizarres. Non, un film, par exemple, cherche essentiellement, la plupart des films cherchent à être divertissant. Et puis, de temps en temps, il y a des réalisateurs qui font un truc qui est extrêmement piégeux. Dans ce divertissement, ils nous donnent une pensée à réfléchir. Pour les plus courageux des réalisateurs, on a deux pensées à réfléchir. J'ai les noms. Mais bon, ça marche, ça fonctionne. Voilà, je faisais juste rebondir et approuver et applaudir à 14 mains. Et demi. Tiens. Maintenant, bon, ce que je souhaiterais, c'est laisser passer la parole à ça.
Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si avoir écrit des bouquins de ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire a eu une influence sur votre manière d'écrire du policier, du thriller. De construire, d'écrire, de...
Oui. Suivante.
Non, mais bien sûr. Ouais, Comme Yal, je pense que le fait d'avoir fait ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire, ça t'amène à ne plus faire aucun complexe, ne plus avoir aucun blocage, tu vas où tu veux, tu t'autorises à peu près tout et n'importe quoi. Ce qui veut dire que le problème du thriller aujourd'hui, c'est qu'il est extrêmement formaté. C'est-à-dire que là, depuis 5 ans, on bouffe de l'esquimau. Hein, c'est que des pays suédois, norvégiens qui nous vendent du thriller. Et que les éditeurs, ayant pas le début du commencement de la queue de l'embryon d'une idée, y suivent pour le moment, tant que ça va marcher. Vous avez remarqué que dans les littératures de genre, on bouffe du vampire depuis 5 ans. Hein. Avant, c'était du sorcier à lunettes. Et encore avant, c'était des dragons avec des trucs avec pieds poilus qui couraient derrière. Bon. C'est par cycle. On va y revenir, hein, normalement au pied poilu, puis ensuite, enfin, vous voyez, on va redéfiler le truc. Le problème des auteurs de thrillers, c'est qu'en France, on a quelques noms comme ça qui sont extrêmement respectables, qui font du très très bon boulot, absolument, et parmi lesquels, en plus, j'ai des bons camarades. Pour faire court, je sais pas, Chatham, Tillier, des gens comme ça, qui ont chacun leurs pattes. Et que le problème, c'est que comme ces gens-là sont de très bons vendeurs, il y en a plein, on peut en citer des paquets. Comme ces gens-là sont très très bons vendeurs, les éditeurs pensent qu'il y a un filon ou qu'il y a un modèle. Et ils vont demander à ce qu'on fasse ça. C'est problématique. Pour les connaître bien, par exemple, c'est rigolo, Tilly et Chatham ont pratiquement les mêmes succès en termes de volume de vente. En revanche, dans leur approche, ils sont radicalement opposés. C'est-à-dire que Maxime veut aborder tel sujet, réfléchit à ce sujet, je dis n'importe quoi, le mal, le ceci, le cela, voilà. Et parce qu'il veut aborder ce sujet, il va construire une histoire pour amener cette réflexion. Franck, c'est l'antithèse. Il y a un sujet qui lui saute à la figure, un article, et ça va nourrir son imaginaire, et il va repartir de l'autre côté. Ils arrivent au même résultat, ce sont deux thrillers, qui sont très très bien foutus parce que chacun a sa musique et sa technique. Mais les éditeurs, n'étant par définition pas des auteurs, ils ont l'impression que bah, c'est comme un mécano à qui on demande de retaper un moteur de bagnole, il suffit d'avoir un plan et qu'on va y arriver. Ils ont juste oublié un truc, c'est qu'on a chacun notre façon d'être, chacun notre façon de construire, chacun notre musique, si tant est qu'il y a ça. On va comparer style et musique. Et ils ont l'impression qu'on va tous faire la même chose. Le fait de devenir des littératures de l'imaginaire, ça nous a donné une liberté, je crois, de ton, de construction, et peut-être que ça nous a enrichi, et peut-être que même ça nous a préparé, à défaut d'être formaté, au tempo du thriller, à cette espèce de... Mais on est de la même génération, on a été nourri par la BD, par le ciné, par tous ces trucs-là, et donc...
La même musique aussi.
Souvent, voilà, la musique, et les éditeurs nous disent... Alors, ça revient, c'est rigolo, quand les gars n'ont pas l'habitude, ils font... Ah, c'est vachement cinématographique ce que vous faites, mais je veux que c'est ça, c'est l'idée.
Salut ma pote, tu me donnes combien en plus ?
Oui, l'idée c'est d'allumer des images et de permettre aux lecteurs d'entrer dans ces univers-là. Donc oui, je pense vraiment que la littérature de l'imaginaire, en règle générale, te prépare, quand tu as envie après de passer à ce type de sujet, à la littérature du thriller.
Avant de passer la parole à Yael, il y a une dame qui voulait dire quelque chose. On va y venir plus tard dans les...
Ouais, alors ça, on va pouvoir en parler. Mais c'est mal de réveiller en nous le mauvais côté de la force. On a plein de choses à dire.
Parce que c'est celui dans
lequel... Oui, ça va être intéressant, vous allez voir. On va plomber l'ambiance, hein, mais on va en parler. Oui.
Il y aura des morts. Ils sont
pas là. Quand je parlais de formatage, vous allez voir de quoi je voulais parler. Oui.
Comme tu as dit tout à l'heure, plus un. Donc, je partage à peu près tout ça. Je vais juste rajouter un tout petit détail, mais tout petit, ça va être extrêmement rapide. Il y a quelque chose qui fait partie de tout écrivain, qui fait partie de toute littérature, qui fait partie de tout travail littéraire, de tout, quelque genre que ce soit, c'est la documentation. On s'informe, on se nourrit du monde pour pouvoir le retranscrire, de toute façon. Et la science-fiction, parce qu'il y a le mot « science » dedans, et que la première vocation de la science-fiction n'est pas d'être fantastique, comme dirait l'aveugle, c'est au contraire d'être avec le plus d'imaginaire possible, le plus près possible aussi des réalités scientifiques, de ce qu'on pense être les réalités scientifiques du moment. Parce que la réalité scientifique, c'est un plein temps, enfin, ça, tout le monde l'a compris, sauf Giordano Bruno, il a brûlé un petit peu pour ça, mais...
Voilà, donc quand on a travaillé dans la science-fiction, qu'on a eu l'habitude de se documenter sur à peu près n'importe quoi, quand on crée un système stellaire, un solaire, c'est très simple, hein, je vous le dis, grosso modo, il faut avoir, allez, bac plus 6, mais maths, hein, on a commencé par voilà, c'est, et puis après, il faut quand même aussi bac plus 6 en physique, plus, alors quand je dis ça, bac plus, c'est juste pour dire que la documentation qu'on est obligé d'ingérer pour faire fonctionner tout ça, elle va passer par diverses sciences, donc l'astrophysique, la physique, les mathématiques, et puis d'autres qui sont la biologie, l'écologie. On a ingéré ça quand on a écrit de la SF, et quand on rentre, ça va être anecdotique, mais quand on rentre dans des littératures, enfin dans le thriller, ce qui m'est arrivé, je me suis dit... Ah, il faut quand même que je sois sûr de toutes mes sources, que je, etc. Alors que le monde, je le connais, le monde dans lequel on vit, assez bien, hein, dans l'ensemble, parce que, et j'ai même pris un malin plaisir dans mon premier thriller, pas un malin plaisir, mais je l'ai écrit du coup dans les villes que je connaissais le mieux. Et ben, je me suis redocumenté et surdocumenté pour pouvoir faire ça. Et ça m'a servi à rien, parce que de toute façon, toute la documentation que j'avais acquise exprès pour écrire ce bouquin qui se passait chez moi, je me suis aperçu en ouvrant la fenêtre, ah ben c'est là, hein. Ah ok, ça va bien. Voilà. Donc, le petit plus qu'apporte le fait de devenir des littératures d'imaginaire, c'est qu'on a le truc, la façon de réfléchir, de construire à partir de pas grand chose, des systèmes structurels qui fonctionnent très bien.
Et à l'inverse, toi, par exemple, Yal a vécu il y a peu de temps l'expérience de réécrire, ne serait-ce qu'une novella de SF. Est-ce que ton expérience du thriller a joué ?
Oui, complètement, mais j'ai changé la dynamique du texte grâce à mon expérience du thriller. Ce que tu disais tout à l'heure, le thriller, attention... C'est pas qu'il y a des règles, on peut tous faire ce qu'on veut, et entre autres Maxime Chattam et Franck Tilliez n'écrivent pas du tout de la même façon, de la même façon qu'ils ne conçoivent pas du tout les histoires de la même façon aussi. Je vais redire de la même façon, ça va être très joli pendant très longtemps. Oui, alors, le thriller, il y a quand même besoin, il y a quelque chose qui est impératif, c'est que, a priori, quand le lecteur l'a dans les mains, il faut qu'on lui gâche, ça, qu'on lui brise sa nuit. C'est-à-dire qu'il va être obligé de le lire jusqu'au bout. Et si on lui pourrit pas la nuit, il faut au moins qu'on lui pourrisse le voyage, le transport en commun. Je pense essentiellement aux Parisiens, nos amis parisiens.
Ouais, quand il rate une station, c'est bon signe.
Voilà. Dès qu'on lui a fait péter une station, on sait qu'on a réussi le truc.
On a fait le boulot, ouais.
Donc ce rythme-là, qui est un rythme narratif beaucoup plus proche de... je vais le dire à l'envers, mais en fait les séries télévisées ont été construites sur des rythmes narratifs qui sont nés dans le thriller américain des années 60 et 70. Maintenant on a même l'impression de faire le contraire quand on écrit, on se dit à un moment, tiens, je suis en train d'écrire, bon, ça m'arrive en ce moment, c'est pour ça que je le dis, j'écris un bouquin qui va être sérialisé en 13 épisodes. En fait, c'est pas un bouquin, j'écris 13 épisodes, je suis devenu scénariste de moi-même. Mais c'est plus du tout les mêmes rythmes, c'est plus... J'ai pas le droit de prendre mon temps, j'ai pas le droit de...
On en parlait hier à table, tu sais, les séries américaines policières. Vous avez souvenir de NYPD Blues? C'était une série qui se passait donc dans un commissariat, ça a été une révolution à la télé. Si vous avez l'occasion, jetez un œil dessus, c'est trouvable en DVD. C'est une trouvaille extraordinaire, ils ont mis pour la première fois les caméras portées à l'épaule, alors que d'habitude c'était des plans très nets et tout. Et donc, on était embarqués avec ces flics dans leur quotidien, dans leur salle de café, dans leurs problèmes de tous les jours, et puis dans la rue. Et la première fois qu'on a vu NYPD Blues à la télé, on en avait des haut-le-cœur parce que la caméra bougeait tout le temps. Et on voyait ce qu'eux voyaient. Dès qu'il y avait un bruit, un coup de flingue, la caméra tournait pour qu'on voit ce qui se passait. On suivait des gens. Et on n'était pas habitués, nous, c'était l'homme du Picardie en France. Vous voyez, des plans en séquence de trois quarts d'heure sur une péniche. Hein, je ne sais plus qui disait...
L'enfer.
Qui disait, les séries américaines, c'est...
What's your name, motherfucker? Et en France, c'est Marzoni, je suis pas le con, c'est Navarro, je suis venu avec ta mère. Bon, c'est un autre tempo. NYPD Blues, c'était il y a 10 ans. Ça nous donnait mal au cœur tellement ça allait vite. Et quand on la revoit aujourd'hui, on fait, c'est pas mal. C'est assez calme, finalement. Parce qu'on est habitué de plus en plus que les Américains nous auront apporté ça, à mon sens, c'est que nous, on a... Je parle là plus du tout de littérature, je parle de produits audiovisuels. On a le sacro-saint auteur qui fait son job. Et eux, c'est une équipe d'auteurs. Et donc, ils vont aller toujours, parce qu'ils sont plusieurs, toujours un petit peu plus loin, toujours un petit peu plus vite, toujours un petit peu plus net. Ils ont vampirisé la littérature pendant 20 ans. Il est logique que maintenant, les auteurs... à y prendre ce qu'il y a de bon et se le réapproprier. Et puis voilà, et on va établir des ponts et on va essayer de mixer tout ça. Et je pense que de toute façon, ça revient à la même chose. Certes, il y a moins d'efforts à fournir quand on prend une série télé ou un film dans la figure comme ça, parce qu'il suffit de se poser, d'ouvrir les yeux, et que la lecture demande un effort. Mais si nous, on a fait le job, a priori, vous finissez par oublier l'effort que vous fournissez, vous tournez les pages toutes seules, et le but du jeu, c'est vraiment de vous accrocher du début à la fin, et de vous balader, et voilà. Sachant que dans les séries américaines, avec tout le respect et tout l'amour que je leur porte, c'est assez rare quand il y a déjà une idée à penser. Hein. Voilà, c'est le bémol par rapport à la littérature et aux auteurs américains.
Nous vous engageons plutôt à regarder des séries anglaises. Ouais, du Royaume-Uni.
C'est vrai qu'il y en a des biens. Hein.
Ouais.
Et est-ce que, changeant de genre, vous avez vu une différence dans le public que vous avez rencontré?
Je vois plus personne déguisé en personnage de Star Trek, par exemple. Tu vois, ça c'est. Non mais, je suis en train de réfléchir à quelles sont les différences de voilà. Bah oui,
faut sortir. Hein.
Attention, là on est dans un festival d'imaginaire.
Ouais, c'est marqué les oniriques dessus en même temps. Bon. D'ailleurs, je sais pas ce qu'on fout là. Tu as les clés de la voiture, on s'en va.
La présence. Il y a un festival qu'on aime beaucoup, par exemple, qui est le Trolls et Légendes, qui a lieu tous les deux ans à Mons, en Belgique. Il faut préciser, parce que. Comme s'il y avait plein de monstres, mais enfin, bref, où non seulement les gens qui participent en tant qu'invités ou en tant qu'agissants dans le festival sont déguisés, grimés, et ça va très loin, mais tout le public, les 70 000 personnes qu'on va voir pendant deux jours, viennent avec leurs enfants dans les vêtements qui leur donnent, ou dans le grimage, qui leur donnent le plus l'impression d'être là et de pouvoir, eux aussi, être acteurs de ça, jouer un rôle. Voilà, c'est un jeu de rôle gigantesque. Je vous rappelle, c'est Trolls et Légendes, ça a lieu fin mars. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, il y a un truc qui est sûr, au-delà du fait que, quand même, à Mons, il y a des bières. Au-delà de ça, c'est dépaysant à fond. Comme les conventions américaines de science-fiction, par exemple, où on retrouve 80%, enfin pas 80%, mais on va dire, sur les 6-7 000 personnes qui sont là, c'est en général les chiffres. Une convention, en principe, c'est réservé à un domaine très particulier, c'est tout petit normalement. Chez nous, en tout cas, c'est tout petit. Là-bas, chez les Américains, ils sont entre 6 et 7 000. Donc, il y en a 2000 qui vivent dans l'univers de Star Trek. Il y en a 1500 qui sont dans l'univers de Bilbo le Hobbit. Il y en a...
T'as 2000 Stormtroopers, mais généralement, qui arrivent.
Ouais. Stormtroopers, j'avais oublié les Stormtroopers.
Et les Star Wars.
Ouais. Et t'as quelques et Jedi qui se baladent au milieu en
serrant les fesses. Et les princesses Leia en bikini.
Enfin, juste pour en finir sur cet aspect, qui est pour moi la plus grosse différence que je vois entre les salons spécialisés... polar, thriller ou littérature noire, et d'un autre côté les stations spécialisées fantasy, fantastique, science-fiction, elle est là. Sinon pour le reste, il y a des ponts. Autant les auteurs ont du mal à faire les ponts. Les ponts, oui, ça y arrive très bien, mais les ponts, c'est pas facile. On travaille nous pendant ce temps-là. Parce que il y a que les fonctionnaires qui ont des ponts. Eux, oui, en était le garçon. autant les auteurs ont du mal à faire le pont, à passer d'un genre à l'autre et à avoir toujours ce même coulée, cette même facilité. Le lecteur, lui, non, il n'est pas concerné. Il lit un coup du thriller, un coup du fantastique, un coup de la science-fiction. Et même s'il y a des fans ardus qui ne changeront jamais de genre, mais alors là, et même à la limite, il y a le noir clair, le noir foncé, moi, je vois pas trop de différence. J'ai publié 19 romans de science-fiction avant de publier mon premier thriller. Quand même, il y a un background qui est énorme. Ça a gêné ni les lecteurs, ni les autres auteurs, ni les organisateurs de salons, ni les organisateurs de festivals, ni les éditeurs. Les seules personnes qui ont été dérangées par mon coming out, hein, c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est les journalistes. Voilà, je te laisse parler parce que sinon, si je parle des journalistes, là, vous n'allez plus jamais ouvrir un journal.
Qu'est-ce que tu attends? T'as dit un truc qui m'a.
Oui,
c'est sur le passage d'un genre à l'autre. T'as parlé, tu sais, des différentes couleurs de noir et tout ça. Et effectivement, alors ça, c'est pareil. C'est franco-français. Il faut qu'on range les gens, que ce soit les lecteurs, les auteurs, les éditeurs, dans les petites cases. Ça rassure, vous voyez. J'en parlais hier dans une table ronde. On est le seul pays du monde, je crois, où vous allez chez Christian Bourgois, éditeur. Vous pouvez vous acheter Le Seigneur des Anneaux en un seul tome. Grand format, avec des couvertures de John Rove, puis les dessins dedans. Et comme ça coûte une blinde, la question ne se pose pas, c'est pour les adultes. Voyez. Après, vous avez le même chez le même éditeur en 3 tomes. Pareil, il y a de très beaux dessins dessus. Hein. Mais comme c'est grand format et que ça coûte cher, c'est pour les adultes. Voyez. Alors après, je ne sais plus chez qui, mais je vous jure que tout ça est vrai. Il existe la même édition en semi-poche, donc moins cher. Et donc, c'est marqué au dos à partir de 12 ans, puisque c'est abordable par un argent de poche de 12 ans. Hein. Et puis après, vous l'avez au livre de poche jeunesse. Et c'est marqué derrière à partir de 8 ans. J'invite à le vérifier. Hein. Sauf que sur les 4 éditions dont je viens de vous parler, c'est marqué texte intégral. Donc, ok. On a besoin de catégoriser. Je vous raconte un petit peu ma vie, vous allez voir. Sans m'allonger sur le divan et sans payer pour ça, c'est cool. J'ai démarré donc chez Grund pour faire des livres-jeux, des albums. Et puis un jour, j'ai publié chez Bayard. Eh oui. Tout arrive, un bouquin de fantasy. Et quand je suis allé dans les salons, certains éditeurs, certains confrères même, en deux mots, m'ont dit « Tiens, tu t'es mis à écrire. » Parce que déjà, il faisait donc une différence entre un roman et voilà. Et puis un jour, j'ai publié mon premier roman au masque, et donc on m'a dit « Ah, mais maintenant tu fais des livres. » Je vous jure, tout ça est vrai. Et en 2004, j'ai eu la chance d'une expérience un peu particulière. J'ai écrit un roman de littérature blanche. Donc vachement bien, vous savez, littérature blanche, donc il n'y a pas de flingue et il n'y a pas de dragon. Hein, pour faire court. Chez Sabine Vespizer, qui est donc un des éditeurs de littérature les plus en vue de Saint-Germain-des-Prés. Un rayon de 500 mètres comme ça. Et que tous les journalistes vénèrent. Et donc d'un seul coup, j'étais devenu quelqu'un d'hautement fréquentable. Sauf qu'en arrivant à Brive... Je ne donnerai pas son nom, il s'appelle Monsieur Legros. Il est libraire dans une librairie catholique et il a un petit sac façon Thénardier. Il vient chercher les chèques, tu sais, toutes les deux heures pour les planquer et les ramener. Et ça fait 17 ans que je vais tous les ans à Brive. J'ai raté qu'une fois parce que j'étais puni. Et donc j'arrive en 2004 et ce type me connaît. Eh bien, ça va, bon alors on a tous tes bouquins, sauf qu'on a un problème, on a reçu un carton, ça doit être un homonyme. Parce que ça venait de chez Vespizer. Donc je lui ai dit ouais mais les gens savent pas puis ils s'en foutent d'autres, je vais les signer, c'est abruti. Depuis 8 ans il est persuadé que j'ai fait des fautes tout le week-end.
C'est génial.
Mais ça va plus loin en France, c'est à dire que même dans le polar au sens large on a des catégories et il faut rentrer dans une catégorie. Alors quand on parlait de mixer, vous avez vu, hein, top, je rattrape le truc, hein. Quand on parlait de mixer, c'est super compliqué, ou alors il faut le faire en loose dé, un peu, mais non, c'est pas vraiment du fantastique, ce serait mal, je sais bien, mais non, comment ? Oh ouais, ça y ressemble un peu, mais je vais laisser une explication à la fin. Brussolo, par exemple, au début,
Il y a un journaliste qui a dit, ce type est un genre littéraire lui tout seul. Ben, c'est vrai, on ne savait pas où le ranger, on était emmerdés. C'était pas du polar. Enfin, on en était sûr, c'était pas complètement du fantastique non plus. C'était pas de la SF, mais il y avait des bouts de machin partout. Donc ça piégeait le lecteur. Et moi, j'ai longtemps bossé au masque avec lui. Il était mon directeur de collection. J'ai même signé plusieurs fois en dédicace avec lui. C'était à hurler de rire. Il y avait des tas de mères de famille qui venaient se faire signer le bouquin. J'insiste sur le mot mère de famille parce qu'elles étaient intimement persuadées qu'elles n'aimaient pas le fantastique ni la science-fiction. Ah, je déteste, je sais pas. Oh là. Et Serge était un peu... Mais il y en a dans mes bouquins. Il est fou, lui. Et donc, il faut, oui, on peut bousculer un petit peu, mais il faut faire vachement gaffe, quoi. Et en polar, ne serait-ce que la différence entre, quoi, série noire, enfin, polar au sens propre et thriller, c'est marrant, il y a deux écoles, hein. On ne nous mélange pas dans les salons. Oula. Oula, oula. Quai du polar, à côté, exemple, là-bas. Oui. Il y a une case pour les auteurs de thriller, hein.
Un aquarium.
Ils sont sur le bord, hein, tu sais, puis les polars 2 sont au milieu.
Ouais. Cette année, au Quai du Polar, il y aura aussi de la science-fiction.
Ouais, tout fout le camp.
Il y aura quoi ?
De la science-fiction.
Yasmina. Je vais appeler Norman rapidement, là.
Justement, on parle de cases, et c'est vrai que les littératures de genre multiplient les petites cases et les petites boîtes dans lesquelles on les range. Et vous pourriez raconter des aventures, justement, avec des libraires, avec des bibliothécaires et le mal qu'ils ont eu à classer vos bouquins. Je sais par exemple que certains thrillers d'Ayerdal sont rangés en science-fiction.
J'adore, c'est bien ça.
Oui, et c'est assez douloureux parfois, parce que ça peut se retranscrire. Enfin, ça se voit après, au moment où je reçois le chèque sur combien j'ai vendu dans l'année. Si on fait une petite erreur, c'est de coller un thriller dans les romans de science-fiction, de ne pas le mettre dans le rayon thriller,
ouais.
C'est 100 000 ventes de moins. Enfin, c'est pas compliqué, donc c'est très très embêtant. J'ai eu avec deux romans qui s'appellent Transparence et Résurgence. Résurgence étant la suite de Transparence, suite entre guillemets. Enfin, c'est les mêmes personnages qui sont mis en scène. Dans une autre histoire. Transparence qui a été mis en place en à peu près au bon endroit, polar thriller, a fait son carton normal, ça a très très bien marché. Résurgence a été mis, alors je sais pas, peut-être dans les cartes routières, peut-être en jeunesse. Non, globalement, les libraires l'ont plutôt collé dans la science-fiction, et là ça a été le bide.
C'est fou.
Mais le bide de chez le bide, c'est-à-dire pratiquement 30 fois moins de ventes que le premier. Le premier, on appelle ça un joli score. Mais là, le deuxième, on appelle ça un gros bide. Donc la catégorisation a une influence très nette sur ce qui nous arrive. Après, c'est vrai qu'il y a des ponts entre les lecteurs, ce que je disais tout à l'heure. Que les lecteurs, eux, sont nettement moins figés que les éditeurs, les auteurs et surtout les journalistes. Oui, il y a des gens qui, du coup, c'est sympa, j'ai vu ton bouquin. Alors, à la FNAC, il est en rayon polar, je m'en fous, je l'ai acheté. Et puis, 3 jours après, je voulais l'offrir à une copine. Je l'ai trouvé en rayon SF chez Virgin, je l'ai acheté. Et mon petit libraire qui est juste en dessous, quand j'ai commandé le bouquin, il m'a dit « Mais c'est un bouquin de quoi ?» J'ai pas su lui répondre. Il a dit « Donc c'est de la littérature générale. »
C'est. Je rejoins Yal dans le fait que les lecteurs sont... En France, on a une spécificité. Le lecteur est difficile à trouver, mais généralement, il est fidèle. C'est-à-dire que quand... Moi, je fonctionne de la même façon. Quand un auteur me touche par son rythme, par sa musicalité et par le plaisir qu'il m'apporte, quel que soit le genre abordé, je vais y aller. Je vais voir. Après, c'est ou pas ce que je recherche. Il n'empêche que je sais trouver, un peu comme quand on fait confiance à un musicien en achetant un CD avant de l'avoir écouté, ou quand on pousse la porte d'un cinéma, on va reconnaître un certain savoir-faire, et c'est ça qu'on s'offre d'abord. Après, pour les catégorisations, c'est rigolo. Je vais encore faire le pignouf, là, mais vous savez la différence. Alors, c'est de la caricature, mais autant rigoler un peu dans notre rayon, entre le polar et le thriller, non? Alors, je vais vous dire, madame, vous êtes rangée en polar. Si vous faites 5000 ventes, vous serez content. Si vous êtes rangé en thriller, en dessous des 5000 ventes, c'est un échec. Pourquoi ? Parce que globalement, en France, on sait qu'il y a 80% de lectrices et 20% de type mâle qui complètent le nombre global des lecteurs en France. Là, il faut le savoir. C'est-à-dire que nous, on a autre chose à faire, vous voyez, il y a le foot à la télé et puis merde, quoi. Les filles lisent, déjà. Elles lisent d'ailleurs plus tôt, généralement, à l'école, c'est comme ça. Dans cette catégorie-là, on se fait enfoncer depuis la plus tendre enfance. Le truc, c'est que le polar, alors ça, après, c'est sociétal ou hormonal, j'en ai aucune idée, c'est 80% de lecteurs. Donc si vous prenez 80% de lecteurs dans une catégorie qui sont pris que dans les 20% qui restent, forcément, vous restreignez le champ des possibles, comme disent les instruits. Pourquoi ? Parce que le polar, toujours dans la caricature, c'est essentiellement des hormones, de la bière et de la société. Et que si ça part en autre boudin à la fin, on s'en fout, on a passé un bon moment. Alors que les filles, quand elles lisent un polar, dès que ça commence à un peu trop tirer des coups de flingue, cavaler dans les rues, voire sentir sous les aisselles, bon, bah, vous tournez les pages parce que ça va 2 minutes et vous attendez la suite du truc. On est bien d'accord. En thriller, 80% de lectrices. Alors, pardon mesdames, je vais vous faire hurler. Parce que les filles, ça veut bien qu'on leur raconte n'importe quoi. Sauf qu'à la fin, il y a intérêt à avoir une explication sévère, parce que sinon on prend cher. Parce que là, vous êtes d'accord ? Je vais plus loin dans la provocation. Mesdames, vous établissez un rapport sado-maso avec l'auteur. Ça vous fait moins marrer. Et pourtant, si, je vous le prouve. Vous voulez toutes savoir qui a fait le coup avant la fin ? Sauf que quand vous y arrivez, vous nous en voulez ? C'est sado-maso. Et si dans le dernier chapitre, on vous retourne comme des crêpes, vous faites « Oh, le salaud, il est trop fort !» C'est vraiment sado-maso. T'es OK ?
Ah, complètement.
Eh ben, c'est pour ça que Yann et moi, on est très bons là-dedans.
C'est tout à fait un hasard.
T'as vu, je l'ai fait, j'ai attendu que la fille avec la caméra soit barrée, quand même.
Pardon, je suis désolé, mais ça enregistre quand même.
Je vois pas les gestes. Coquin, là.
Ouf. Et maintenant, on va justement en venir à la question de madame. Le mélange des genres. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous voulez rester bien rangé dans un genre ou justement mélanger, explorer, rajouter, faire d'autres choses ?
On va avoir la même réponse tous les deux et elle va être très courte, je crois. C'est que genre ?
Ouais, exactement. Je crois que toi comme moi, on a plein de trucs de nos univers d'avant, j'avais envie de dire, qui se font toujours là. Mmh. Et on ne se pose même pas la question. Et puis, ça fonctionne pareil. Et encore une fois, ça, c'est franco-français. Il faut qu'on catégorise le truc. Il faut qu'il y ait la littérature jeunesse et la littérature vieillesse. Il faut que dans chaque catégorie, il y ait littérature générale, donc blanche, littérature noire, littérature jaune, verte, qu'est-ce qu'ils nous font suer, on s'en fout.
On n'a pas encore la littérature rose. Ah si.
Si, bien sûr.
Si, c'est marqué Barbara Cartland dessus.
Ah, c'est ça.
Oui. C'est rose.
Non, mais moi, le rose, je ne le vois pas. Non.
C'est quand même un truc... Enfin, attendez, on doit être le seul pays du monde où Harry Potter a démarré en poche pour finir en grand format. C'est-à-dire, il fait le parcours inverse. Parce qu'il fallait rassurer les adultes et qu'ils puissent se payer un bouquin qui ressemble à un bouquin d'adulte. C'est... En Angleterre, Harry Potter, et en règle générale, la littérature n'est pas spécifiquement écrite pour l'enfance, n'est pas spécifiquement écrite pour la jeunesse. L'éditeur prend un bouquin, l'achète parce qu'il trouve que c'est un bon bouquin. Et si les thèmes abordés, le traitement permet la lecture des plus jeunes, alors on le met à disposition des plus jeunes et on se pose pas de questions. Et on n'a donc pas le complexe du lecteur du « c'est plus de mon âge » ou « qu'est-ce que tu lis là ?» Ça, c'est assez rigolo. En revanche, en France, on a nettement moins de complexe. Vous n'imaginez pas le nombre de lecteurs qui sont allés lire « Le Seigneur des Anneaux » au cinéma.
Et le pire, il y a aussi ceux qui sont allés voir
Millennium,
Star Wars, chez Gélu. Ah oui, non, parce qu'on a le double effet, ça marche dans l'autre sens. Et on fait parfois des films à partir de Buffy
ou Fleuve Noir.
Ah non. Alain, Stéphane, vous êtes toujours là. J'en ai encore une pour vous aujourd'hui. Non, chez Brajlon.
Non, Buffy, c'était au fleuve,
en poche.
Oui, je sais.
Ils ont repris des trucs, oui. Alain, là, tu viens de leur faire mal.
Non, mais je... J'en profite, c'est enregistré, ils ne regardent pas. C'est très drôle, la sérialisation. La question de départ était sur un truc précis, en fait.
Mélanger les...
Ouais. Quand on mélange les gens, on ne sait même pas qu'on mélange les gens. Vraiment, on n'a aucune conscience. Ce qu'on fait, c'est on va avec nos élans naturels vers deux ou trois choses. Ce qu'on a dit tout au début, on a des choses à raconter qui ne sont pas que des histoires. C'est-à-dire qu'il y a un contenu qui est éventuellement politique ou tout bêtement humain, humaniste. C'est-à-dire on a quelque chose à dire. Et puis, on a un contenu qui est aussi... On va vous emmener, on espère vous emmener à rêver, vous faire peur, vous faire pleurer, vous faire rire. Quand on écrit, des fois, on y pense en aimant, on dit, ah putain, là je sens que je vais les faire pleurer. Et à ce moment-là, on se met à pleurer comme des baleines.
Oui, il faut que ça fonctionne sur nous d'abord, mais...
Ah, voilà.
La notion de genre... Discussion il y a une quinzaine d'années avec des bibliothécaires adorables de Seine-et-Marne. Douzaine de dames et deux messieurs, très gentils, qui m'avaient fait venir pour rencontrer les lecteurs. Et justement, à l'époque, j'avais donc pas encore publié chez Vespizer. J'étais ni chez 10-18, donc j'étais pas encore un gars vachement fréquentable.
Ah non, t'étais pas un auteur,
je faisais beaucoup de jeunesse. Et il y a une dame catastrophée qui me dit, écoutez, c'est bien ce que vous racontez sur le fantastique, mais justement, moi j'ai un problème avec mes ados, tous ceux qui fréquentent la médiathèque, ils ne lisent que du fantastique, c'est impossible de leur faire lire un classique. On réfléchit 30 secondes ensemble et je fais la peau de chagrin, ça vous dit quelque chose? La dame, bah oui. Et vous l'avez rangé où, la peau de chagrin? Bah, en classique. Et là, je vois ses collègues qui commencent à rigoler et la dame bloquait. Je lui dis, bah, écoutez, soyez un amour, vous allez me prendre ce bouquin, puis vous allez glisser l'air de rien au milieu des bouquins fantastiques pour les ados. Et on reparlera de lire des classiques. Toujours ce foutu problème de catégorisation et de rangement français. Les gamins n'iront jamais vers ce livre parce que c'est rangé chez les vieux, c'est classique. Eux, c'était des auteurs, ils avaient 120 ans, ils écrivaient il y a 1000 ans. N'empêche que ça reste une histoire extraordinaire, certes avec un style qui ne correspondra pas au canon de l'époque. C'est vachement bien, mais c'est quand même nettement moins rythmé, hein, Balzac. Mais pour peu, les ados qu'on leur donne à manger dans une catégorie qu'ils ont envie de visiter, ils y vont. J'en veux pour preuve que quand on a lancé une nouvelle collection, il y a pile 12 ans, en 2000, on lance des grands formats pour ados. Harry Potter est toujours en poche, on ne l'a pas encore mis en grand format. C'est chez Bayard, j'amène Brussolo, j'amène des tas d'auteurs comme ça, et on dit, tiens, on va tenter le coup, on va faire des bouquins pour ados, avec des couvertures modernes, avec des grands formats et tout. Tous les auteurs, tous les éditeurs jeunesse sont venus au Salon de Paris et ricanaient devant notre stand. Ils ricanaient en disant, ils sont gentils, eux, l'an prochain c'est mort. Et puis, chez Bayard, il a fallu batailler, parce qu'il voulait qu'on coupe 30, 40, 50% de nos textes en nous assénant toute la journée que les ados n'étaient pas foutus de lire des textes de plus de 200 pages. L'année d'après, commençaient à se vendre des bûches avec des petits sorciers à lunettes dessus. Et là, on leur a expliqué que voilà, ils marchaient sur la tête, qu'il fallait que peut-être ils avaient envie de faire des bouquins pour les enfants, mais il fallait juste s'interroger sur ce que c'était qu'un enfant. Et ça, ça leur échappait complet. À l'époque, les bureaux de Bayard étaient rue Bayard, juste à côté des Champs-Élysées. Et ces dames m'avaient expliqué qu'il fallait mieux que je passe pas trop souvent parce que j'avais pas le look Bayard. Alors, comme j'avais amené des illustrateurs pour les couves et que je voulais une certaine charte, qui me disaient mon Dieu, pourquoi tant d'horreur ? Je leur avais juste, j'avais organisé un petit charter. J'avais pris ces petites dames et je les avais amenées sur les champs et on avait d'abord poussé le Virgin, puis la Fnac à côté parce qu'il y avait des grands écrans de télé qui tournaient en permanence et devant des jeux vidéo. Et elles étaient horrifiées. Je leur ai juste dit, mais voilà, un enfant de 12 ans aujourd'hui, ça regarde ça, ça n'a pas peur de ça, et sa charte graphique à lui et ses univers, c'est là. Donc si vous voulez faire ce type de littérature et parler de ça, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans le gore ni aller dans la surenchère. Ça veut juste dire qu'il faut correspondre à des codes que les enfants ont, et qu'en gros, si vous voulez lui jouer oui-oui dans l'espace, il va sentir le loup très vite. Et il ne va pas y aller.
Et quand on parlait de mélange, quand madame voulait parler de mélange, on pourrait parler de thriller de SF ou de thriller humoristique ou de choses comme ça.
Je vais vous faire une réponse extrêmement cynique. On aura le droit de faire ça le jour où Jasper Ford vend des millions de bouquins en France. On n'aura pas le droit, on aura le devoir de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ?
Parce que malheureusement, si Jasper Ford a beaucoup de succès dans les pays anglo-saxons, il se vend vraiment pas très bien en France.
Et on remerciera jamais assez l'éditrice qui continue à se battre pour le publier, alors que c'est un des rares auteurs avec lesquels elle perd de l'argent. C'est un auteur exceptionnel, Jasper Ford. Voilà, on n'en touche pas, 30 par siècle, comme ça. Malheureusement, il est extrêmement exigeant vis-à-vis du lecteur. Il lui demande une culture, il lui demande un sens de l'humour, il lui demande la possibilité de se projeter dans des univers totalement non croyables, de façon beaucoup plus... Enfin, la plongée, c'est beaucoup plus difficile de s'immerger dans un Jasper Ford en termes d'imaginaire que dans un Terry Pratchett, alors que le sens de l'humour est parfois relativement proche. Je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'ils se fréquentent, ces gens-là.
Hein ? Mais par exemple, en français, écrit par une jeune femme française, je peux vous conseiller Bord de Marge, publié aux éditions Bragelonne, qui part du même principe. Sans qu'elle ait lu Jasper Ford, il y a du Jasper Ford en elle. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Parce que l'heure tourne.
Non. Non, parce que non, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez mettre vos petits bulletins dans l'urne. Ah, je... Oh.
Polar, en fait, ça, aujourd'hui, ça couvre tout. On parle de littérature noire d'un côté et de roman policier de l'autre. Voilà. Polar, c'est le roman policier au sens large. Il se trouve que le roman noir, effectivement, a moins de lecteurs que thriller. Et le problème, c'est qu'après... Mais là, on tombe dans des considérations bassement commerciales. Il y a des éditeurs qui vont se dépêcher de marquer thriller sur un roman noir et qui donc vont tromper le... Hein, c'est on vend des lasagnes avec du cheval, vous savez.
Il y a un truc qui est très très drôle, c'est que le sens du mot thriller en France, enfin, dans les pays francophones et latins d'une façon générale, et le sens du mot thriller aux États-Unis n'est pas du tout le même. On ne parle pas du tout de la même chose. Le seul auteur de thriller qu'on connaît en France aujourd'hui, à part Brussolo à une certaine période, c'est Sir Cédric. Pour le reste, on est tous des auteurs de polar améliorés ou des OGM, quoi. Mais voilà, on est loin du thriller. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette dimension fantastique, hyper puissante et terrorisante.
Thrill. Voilà. Le frisson, le...
Voilà. Thriller, c'est ça. C'est, en, chez les anglo-saxons, c'est un livre qui terrifie. Voilà.
C'est Dean Koontz,
qui est là
par
pour
exemple.
Faire peur.
C'est Dean Koontz, c'est Kate Kodja, c'est des auteurs... on n'arrive plus à les vendre en France tellement, effectivement, le frisson, il va parfois un peu loin. Dean Koontz va aussi un peu loin, parfois.
Oui.
Mais... C'est purement américain, mais par contre, en termes de marketing, le mot marche très bien. Et quand Jean-Luc dit que ben, s'il y a écrit Thriller dessus, on est tranquille, on passe la barre des 100 000. S'il y a écrit Polar dessus, on est tranquille, on ne dépassera pas les 5 000. Ouais, c'est vrai, quoi. Alors, je dis on est tranquille, je fais de l'humour, mais j'exagère. Et puis j'ai un petit peu triché avec les chiffres aussi, mais de pas grand-chose. Mais ben, voilà... le thriller tel qu'on le conçoit en France, c'est pratiquement du roman à suspense d'espionnage matinée de polar dans lequel on va introduire un élément très perturbateur parce qu'il peut être de fantastique, il peut être de science-fiction, il peut être de fantasy. On peut s'amuser à mettre des dragons. Enfin, je dénoncerai personne. Hein. je sais pas si Jean-Luc a envie de dire un truc.
Non, moi j'en ai mis deux, mais j'ai pas triché, il y en a vraiment en Corée. Non.
Ben voilà, c'est pareil.
Elle demande même si j'ai pas choisi la Corée parce qu'il y avait des dragons.
Il y a le Saint-Véran de Komodo, mais oh, c'est plus proche de Macan qu'autre chose.
Mais bon, ton dernier roman qui va bientôt sortir, qui sort le 21 mars, Rainbow Warriors, on ne peut pas dire qu'il est classable dans une case.
Non, oui, aucune case, mais c'est très particulier. J'ai pas envie de spoiler le bouquin, et en même temps, il y a un moment que je l'ai écrit, je suis déjà dans un autre, etc. Mais effectivement, le prochain roman que je publie... Même moi, l'auteur, il est normal que l'éditeur se pose des questions. Comment va-t-on le classer? Comment approche-t-on les libraires? Parce que si jamais on te met dans les cartes routières, ça va être quand même difficile de vendre tes recettes de cuisine. Voilà. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. C'est un truc, c'est un livre. C'est un livre. Soyez gentils, c'est un livre. Et puis, ben, finalement, pour des raisons, alors là, bassement économique, l'éditeur et moi sommes tombés d'accord sur le fait que, comme quand même grosso modo, on peut le lire comme un thriller si on en a envie, et qu'actuellement, bien qu'Albin Bichel pleure, je crois que Maxime a fait 2500 ventes de moins que sur son précédent roman. Alors, on peut arrêter ces vaches. Voilà. Le thriller aujourd'hui est le secteur dans lequel ça porte le plus. Mon bouquin est aussi un thriller. Ouais, c'est vrai. Donc, allez, pourquoi pas, ben on va le présenter aux lecteurs, aux libraires et aux journalistes comme étant un thriller. On pourrait le présenter comme étant un bouquin de littérature générale. On pourrait le présenter comme étant un manifeste
philosophique.
Je sais pas, j'en suis navré. Et puis ça va être de pire en pire.
Pour le coup, vous aurez le mélange des genres.
Oui, et c'est... Bravo. Alors,
hein, t'as vu ça ?
Là, bravo.
Ah, mais c'est un métier.
On peut pas faire mieux. En l'occurrence, c'est vraiment le mélange des genres.
J'adore.
Oui, oui.
C'est pas un polar non
joueur,
plus.
Un tripot.
C'est très joueur. Ah oui, c'est très joueur, un tripot.
Voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. Nous vous remercions d'être venus nous écouter.
Un dimanche matin alors qu'il fait beau. Merci beaucoup.